Ils virent passer les heures interminables du jour dans un tête-à-tête presque muet, ayant entre eux ce corps dont leurs pensées se détachaient si peu qu'ils croyaient par moments le voir recroquevillé sous le couvercle. Guiret se tenait encore, mais Fred, après une minute de calme, se mettait soudain à trembler. Alors Guiret le considérait, les mâchoires contractées, se raidissant contre la peur qui le gagnait à sentir cette peur si proche. Il avait retiré la clé de la serrure, et quelquefois, pour échapper à cette contagion qu'il connaissait, qu'il appelait du nom médical de « folie à deux », il passait dans sa chambre, se plongeait le visage dans la cuvette, pour revenir aussitôt, rappelé par un bruit quelconque, ou simplement par une frayeur profonde qui engloutissait toute pensée dans sa tête. Pour justifier ses brusques retours, il demandait « Tu m'as appelé ?» Les premières fois, Fred sursautait et répondait d'une voix saccadée « Non, mais non !» Ensuite, il ne répondit plus, même par monosyllabes. Dans ce jour d'hiver, rien n'indiquait la fuite du temps. Le ciel demeurait d'un gris uniforme. Pas un rayon de soleil n'en traversait la tristesse. Comme d'habitude, ils ne restaient guère chez eux, leur temps se trouvant pris par l'hôpital, les cours et leurs plaisirs, ils n'avaient même pas la ressource de juger, au bruit différent de la rue, la succession des heures. Tous les cris étaient neufs pour eux. Depuis celui du rempailleur de chaises jusqu'à celui des marchands de quatre saisons. Ils avaient la sensation de vivre dans une ville inconnue, parmi des êtres nouveaux dont ils ignoraient les habitudes, la forme même. Par une coïncidence bizarre, la pendule de la cheminée s'était arrêtée. Ils ne possédaient plus de montre depuis longtemps, et ils guettaient les rumeurs qui montaient, espérant entendre le son d'une horloge. Ils n'en reconnurent les coups qu'à midi. La fatigue les écrasait, mais la faim les tenait éveillés, et aussi la frayeur. Leur épuisement physique était si grand que, dans leur tête, il n'y avait plus de place pour le remords, et la lenteur des minutes dont ils comptaient la succession ajoutait encore à leur angoisse. Elle devint si poignante que Guiret dit à haute voix « Le jour ne finira donc jamais !» Il regretta aussitôt cette exclamation, car Fred se mit à sangloter, roulant sa tête sur les coussins, grinçant des dents pour étouffer les sanglots qui le suffoquaient. Guiret chercha sur les assiettes, parmi les reliefs du souper de la nuit, espérant que, la bête apaisée, son compagnon retrouverait quelque courage, et il lui tendit une tranche de pâté. Fred la repoussa avec horreur. Alors il essaya de prêcher l'exemple, de crâner, mais la première bouchée s'arrêta dans son gosier. Vers 3 heures, il murmura, incapable de supporter plus longtemps ce silence affreux. « Le propriétaire doit avoir reçu la dépêche et sa réponse est partie, sans doute. » Il disait cela autant pour se rassurer lui-même que pour remonter Fred. Mais Fred ne semblait pas l'entendre et demeurait prostré, le dos secoué de frissons. Un peu plus tard, il dit encore « Il fera nuit bientôt ». Fred répéta, halluciné « Il fera nuit ». Le jour s'éternisait. À peine si l'ombre commençait à descendre le long du vitrage de l'atelier et à couler dans les coins retirés de la pièce. Il se décida enfin à décroître. Un à un, les objets disparaissaient. Le dernier qui resta visible fut la malle, placée en plein milieu, et sur quoi un reflet s'attacha pendant un temps assez long. Enfin, l'obscurité les enveloppa. Ils en éprouvèrent un soulagement, mais il fut de courte durée. Et pour lutter contre l'angoisse qui les gagnait de seconde en seconde, Guiret alluma une lampe. Comme elle avait brûlé toute la nuit, elle ne tarda pas à charbonner et à répandre une odeur âcre. Il l'éteignit. Aussitôt, Fred se dressa en criant « Non, non, de la lumière !» L'obscurité se peuplait pour lui de spectres. Guiret obéit. Fred soupira. Mais bientôt la lumière baissa insensiblement. Guiret eut beau lever la mèche, la flamme, un instant plus vive, retombait, découpant contre les murs le profil déformé des meubles et l'ombre de leur corps. Puis elle clignota, faisant alterner de brusques feux et des flaques noires, et elle mourut enfin, laissant à la base du verre un anneau rouge. N'ayant ni pétrole ni bougie, ils demeurèrent dans la nuit. Le froid leur en parut plus pénétrant. Fred s'était allongé sur le divan, abattu par le sommeil. Il se secouait, agité de cauchemars, mâchonnant des phrases incompréhensibles, dressant ses bras dans un geste de défense. Et Guiret distinguait la tache blême de ses mains, qui semblaient, suspendues dans le noir, des apparitions fantastiques. À l'aube seulement, son souffle rude se cadença. Mais alors, perdant ce fragile contrôle de la volonté qui, dans la demi-torpeur, le contraignait à quelque prudence, étouffait les mots sur ses lèvres, il se mit à rêver tout haut. Et son rêve, tournant dans un même cercle, le reconduisait aux péripéties du meurtre, lui en faisant revivre les moindres détails. Guiret l'entendait tour à tour emprunter sa propre voix et celle de sa victime. Il avait beau, penché sur la couche, lui dire, suppliant ou autoritaire, « Tais-toi, je t'ordonne de te taire !» L'autre continuait, d'un accent tantôt plaintif, tantôt aigre, de jouer cette épouvantable scène. « Chouchou, prête-nous quelque chose. Vous n'aviez qu'à ne pas jouer. Nous allons te tuer. Belle perte. Prends garde, tu as l'argent là. Il est à moi, je le garde. » Il s'arrêtait exténué pour reprendre l'instant d'après. « Chouchou, prête-nous quelque chose !» Guiret, ne pouvant arriver à le faire taire, eut la vision que cet insensé allait les perdre. Et le crime engendrant le crime, décidé à sauver sa peau à tout prix, il envisagea la seule solution. Le couteau dont il s'était servi pour frapper Chouchou était dans sa poche, encore gluant de sang. Il le prit, mais mesurant l'effort qu'il faudrait faire encore pour tuer avec cette mauvaise arme, il lui préféra l'un des bistouris de sa trousse. L'ayant ouverte, il choisit le plus fin. La lame en était étroite, d'aspect fragile, mais la pointe acérée. Il en essaya la piqûre sur son index, du même geste dont il l'eût essayé avant de pratiquer une incision sur un malade, et, satisfait, s'avança jusqu'à toucher son camarade. Si résolu qu'il fût à en finir, il lui accorda la grâce d'une minute, pensant « S'il ne parle plus, je l'épargne. Autrement... » La voix de Fred se fit entendre de nouveau, stridente. Guiret murmura, le bras levé. « Tant pis. » Déjà sa main s'abaissait, quand Fred, redressé, hurla le doigt tendu, accusateur. « Je t'ai vu ! Je t'ai vu !» Guiret recula, cacha le scalpel derrière son dos et dit du ton affectueux d'un ami qui veille au chevet d'un malade. « Quoi, mon petit, qu'est-ce que tu as vu ?» Fred, les yeux démesurément ouverts, répéta. « Toi, toi, je t'ai vu ! J'ai bien vu ce que tu as dans la main !» Guiret l'apaisa d'une tape sur l'épaule. « Tu rêves encore ?» Fred balbutia, incertain si ceci était encore du cauchemar ou de la réalité. « Ah, tu crois ? J'ai rêvé ?»« Oui. » Il passa la main sur son front. « Je rêvais ? Je parlais ? Qu'est-ce que je disais ?» Guiret murmura, la bouche contre son oreille. « Des choses dont la moindre peut faire tomber ta tête et la mienne. » Fred tressaillit. Guiret continua. « Il ne faut pas dormir, mon garçon. Il faut surtout ne plus parler. Quoi qu'il arrive, quelques pensées qui te traversent, il faut te taire, ici, dans la rue, n'importe où, même si on t'interpelle, même si une main s'abat sur toi, il faut te taire. Tu entends ?»«
J'entends, » répondit Fred très bas. « Mais je suis tellement là, tellement là. Je ne sais pas si j'aurai la force de résister au sommeil. Oh, je tâcherai, je te le jure. Mais si je ne pouvais pas, si je succombais, éveille-moi, promets-le-moi.
Je te le promets, assura Guiret avec un étrange sourire.
Puis, sans trouble, il ferma son scalpel et le glissa dans la poche de son gilet. De nouveau, ils se plongèrent dans leurs réflexions, comptant les minutes d'attente, s'apprêtant à voir entrer le concierge portant les quittances. Ils ne sentaient plus ni le froid, ni la faim, ni la soif. Leur corps semblait insensible. Pourtant, l'un et l'autre, à la dérobée, les narines ouvertes, reniflaient comme des chiens l'air où montait peut-être l'affreuse odeur du corps décomposé dans sa prison étroite. Et de toutes les terreurs, celle-ci était la pire. Car dès l'instant où cela commencerait, nulle puissance humaine n'en saurait arrêter le cours. Comme 9 heures sonnaient, ils entendirent qu'on montait l'escalier et qu'on frappait à la porte. Fred étouffa un cri. Guiret, un doigt posé sur la bouche, dit à mi-voix « Réjouis-toi au contraire, c'est le père Legros sûrement. » Et il en était si sûr, en effet, qu'il ouvrit la porte toute grande. Mais aussitôt, il eut un recul involontaire, et seul l'empire qu'il possédait sur lui-même lui permit de reprendre sur le champ ses esprits et de crier « Fred, c'est Marousse, notre ami Marousse !» Fred demeura cloué sur place. Déjà en apparence très calme, Guiret disait « Entrez, mon cher ami, entrez donc, quel bon vent vous amène !» Marousse entra. Il paraissait extrêmement fatigué et d'abord répondit avec quelque embarras.
« Je passais, excusez-moi, je vous dérange sans doute. »
Guiret se récria.
« Pas le moins du monde, vous voyez, nous étions levés. »
Marousse continua d'avancer et, désignant la malle, s'arrêta.
« Si, je vois bien que je vous dérange, vous alliez partir. »
« Oui, mais pas tout de suite, expliqua Guiret. Asseyez-vous donc. » Marousse s'approcha de Fred qui s'était recouché, la face tournée contre le mur.
« Malade ? Non, un peu de migraine, il est sujet à ça, et précisément, comme nous prenons le train, je lui ai conseillé de se reposer. Fred, s'il dort, ne le dérangez pas. »
« Non, il ne dort pas, il somnole. Fred, Marousse te dit bonjour. » Fred se tourna à demi, cachant ses yeux, comme si la lumière les blessait, et il dit, d'une voix qui n'était qu'un souffle, « Bonjour, Marousse. » Le gros garçon lui serra le bout des doigts, puis s'assit, ou plutôt se laissa tomber dans un fauteuil. Il n'avait plus sa figure joviale, et on eût dit que tout son corps avait maigri soudain. Guiret s'installa en face de lui, sur le divan, près de Fred, dont il serrait la main. Un silence gêné pesa sur eux. Pour le rompre, Guiret dit
« Parbleu, cher ami, je ne pensais plus à vous rendre la petite somme que je vous dois. »
Il fouillait dans la poche de son veston. Marousse voulut l'arrêter.
« Laissez donc, ça n'a pas d'importance. »«
Mais si, insista Guiret, c'est trop naturel. Du reste, vous pensez bien que je ne serais pas parti sans vous la remettre. La voici. » Marousse prit les billets sans les compter et dit, les conservant entre les doigts,
« Si cela vous gêne le moins du monde. »
« En aucune façon, affirma Guiret.
« Soit, fit Marousse. »
Puis, les ayant glissés dans son portefeuille, il commença.
« Mon cher, vous voyez un homme très ennuyé, très inquiet. »
Il se tut, attendant une question. Guiret n'en posant aucune, il continua.
« Oui, affreusement inquiet. Chouchou n'est pas rentré. »
Fred laissa entendre un gémissement. Guiret lui étreignit la main et s'exclama.
« Que me dites-vous là? Chouchou n'est pas rentré. Depuis quand ?»«
Depuis hier matin. » « Ça fait maintenant 26 heures. »«
C'est extraordinaire, » murmura Guiret.
« Extraordinaire, vraiment. » Marousse soupira et reprit. « Vous vous souvenez qu'il y avait eu entre nous une petite discussion hier, discussion sans importance d'ailleurs. Je me souviens. En sortant de chez vous, je croyais qu'elle était déjà oubliée, et pour faire la paix, je proposais d'aller prendre le chocolat aux Halles. »
Pour la seconde fois, Fred se plaignit. Guiret l'excusa auprès de Marousse.
« Une seconde, cher ami,
La lumière doit le gêner. » Il tira le store et demanda à Fred. « Tu es mieux ainsi ?» Fred répondit par un signe affirmatif. Guiré se tourna vers Marousse. « Continuez. » Marousse reprit le récit au point où il l'avait interrompu. Guiré écoutait. Quand il arriva au moment où sa maîtresse, sautant en taxi, leur avait brûlé la politesse, Guiré redoubla d'attention. Ici, les faits nouveaux prenaient pour lui une gravité particulière. « Sur le premier moment, dit Marousse, je n'attachais pas d'importance à cette foucade. Chouchou est coutumière du fait, pour un oui, pour un non, elle prend de brusques colères, suivies de brusques résolutions, de rages puériles et de menaces, qu'elle ne met d'ailleurs pas à exécution. Donc, nous suivîmes sans elle le programme que j'avais proposé, et vers 9 heures, on se sépara. Je rentrais chez moi, pensant trouver Chouchou, une Chouchou furieuse à qui je devrais faire des excuses, des promesses. Pas de Chouchou. « Bast, me dis-je, elle est allée chez elle. Vous savez peut-être que, malgré que nous vivions ensemble, elle a conservé son petit appartement personnel. Je pris mon bain, je me changeai, rageant un peu, me demandant si j'irais la rejoindre tout de suite. Mon hésitation dura peu, et je me fis conduire à son domicile. Ici, comme chez moi, pas de Chouchou. » Il prit un temps. Guiré respecta son silence. Il poursuivit. Sans me frapper outre mesure, cette nouvelle absence m'agaça. La plaisanterie passait les bornes, et je me promis, quand je la reverrai, de me montrer non pas repentant et confus, mais sérieusement contrarié. Donc j'attendis. 10 heures, 10 heures et demie, personne. La femme de chambre commençait à s'inquiéter. Je crus que Chouchou, pour mieux jouer son rôle, s'était rendu chez quelque ami, et vers 11 heures, je me décidai à téléphoner à celle avec qui je la savais en relation. Toutes me répondirent qu'elles ne l'avaient pas vue, les unes avec simplicité, les autres me laissant entendre des choses assez peu agréables. Seule la dernière manifesta une anxiété véritable, et cette anxiété me gagna. Il n'est rien de si odieux que l'ignorance des faits et gestes de quelqu'un qu'on attend. Je descendis dans la rue et, pendant 1 heure, guettant les voitures qui passaient, je vous laisse à penser quelles idées me traversèrent la tête. Cette fois, Guiré protesta. Pourquoi s'affoler, dramatiser les choses, quand, la plupart du temps, elles s'expliquent facilement ? Marousse le regarda. Il s'empressa de corriger ce que son objection offrait de trop précis. « Vous savez, mon cher, je vous dis ça sans que rien ne me permette de l'affirmer. C'est un raisonnement d'ordre général. » Marousse accepta l'argument, ou du moins n'insista pas, et acheva. « Vous pouvez croire que je n'ai pas manqué de me sermonner ainsi moi-même. Mais à mesure que les heures passaient, mon raisonnement perdait de sa force, et des arguments singulièrement troublants s'offraient à mon esprit. Dès l'instant qu'elle n'était ni chez moi, ni chez elle, ni chez ses amis, où pouvait-elle se trouver ? Chez un couturier ? Chez une modiste ? Dans un magasin ? Quelle vraisemblance que, coquette comme elle l'est, elle fût allée là, vêtue d'une robe de bal, en plein jour ? Il ne faudrait pas connaître Chouchou pour croire une chose pareille. Mais je passe sur tout ceci, et j'arrive à la fin du jour, à la tombée de la nuit. Convenez que cela devenait terriblement inquiétant. Je commençais à perdre complètement la tête. J'achevais de la perdre quand les becs de gaz s'allumèrent. Et je fis, après 20 courses de mon appartement au sien, ce que tout autre aurait fait à ma place. Je me rendis à la préfecture de police, dans les commissariats, à la morgue même, oui. Oh oh, fit Guiré. Et quoi, ne voit-on pas tous les jours des gens attaqués, dévalisés ? Une femme élégante couverte de bijoux ? N'est-elle pas pour des malandrins une proie toute désignée ? Ajoutez à cela que Chouchou avait une grosse somme sur elle. Elle a la manie de se promener avec 3 ou 4 000 francs pour acheter un timbre-poste. Et de plus, je lui avais donné tout ce que j'avais gagné. Quoi qu'il en soit, nulle part on ne put me fournir le moindre renseignement. La nuit s'écoula ainsi, et maintenant j'en arrive à la quasi-certitude qu'il y a eu un malheur. Il suait à grosses gouttes. Guiré tenta de le calmer. Cette conviction de Marousse constituait un danger terrible,
déjà ses démarches à la préfecture tendaient devant eux une menace. Il jugea indispensable de le détourner de cette idée, de gagner du temps, même au prix d'une infamie. « Mon ami, ce que je vais vous dire est peut-être brutal, mais enfin, il vaut mieux, quitte à se tromper, voir les choses à sang-froid. Vous parlez de disparition, de vol, de crime. En somme, jusqu'ici, le drame se réduit à une absence incompréhensible. Ne croyez-vous pas qu'une fugue, pardonnez-moi encore, l'expliquerait aussi bien ?» Marousse tapotait son soulier du bout de sa canne. Il ne manifesta nulle colère, nulle surprise de ce que disait l'étudiant. Au contraire, il parut à une ou deux reprises l'approuver par un hochement de tête, et quand il eut cessé de parler, il lui dit « Je me suis posé cette question, et puisque vous êtes franc avec moi, je le serai avec vous. J'ai la conviction que vous savez quelque chose. Moi » « Moi ? S'exclama Guiret. « Vous ou Fred ? Répondit Marousse. « Oh, ne protestez pas, ni par gêne vis-à-vis de moi, ni par délicatesse vis-à-vis de la petite. Je ne suis plus un gamin, j'ai 45 ans passés. Ni très beau, ni très drôle, je n'ai rien de ce qui constitue pour une femme jeune et jolie l'amant rêvé. Sachant cela, je comprends et j'excuse bien des choses. Je ne vois pas où vous voulez en venir, s'étonna Guiret. Je ne suis pas davantage sot ou aveugle, poursuivit Marousse, sans répondre directement à la question. J'ai fort bien remarqué que, pendant la partie de poker, Fred et Chouchou, c'est même ce qui me rendait nerveux. Fred ouvrit la bouche pour protester. Marousse affecta de se détourner de lui et continua, s'adressant toujours à Guiret. En d'autres temps, peut-être prendrais-je la chose avec moins de philosophie. Mais après les heures que je viens de traverser, je me réjouirai de toute réponse qui démentirait celle qui m'obsède. Sans compter qu'il se pourrait, après tout, que la réalité fût assez simple et de nature à me forcer au pardon. Nous nous étions séparés, Chouchou et moi, sur une querelle, je vous l'ai dit. Qui sait si, s'exagérant mes torts, Chouchou ne serait pas venu vous demander asile. Les femmes sont coutumières de ces résolutions soudaines. « Quelle folie !» balbutia Guiret. « Folie, si vous voulez, mais écoutez-moi tout de même, et croyez bien que mes paroles sont l'exacte expression de ma pensée. J'ai eu, et j'ai encore tellement peur du pire, que si vous me disiez en ce moment « Chouchou est là », si je la voyais paraître devant moi, ma joie, mon soulagement serait tel que je ne lui adresserais pas un reproche. » Que même si elle m'annonçait qu'elle me quitte, qu'elle part avec Fred, je m'en irais sans un mot. Oui, cela vous paraît fantastique, je m'en irais heureux, quitte à pleurer tout seul ensuite. Guiret agitait la tête de droite à gauche. Fred, recouché sur le côté, mordait son mouchoir. Marousse se leva et acheva. « Elle est ici, n'est-ce pas ?» Guiret se leva à son tour. « Je vous assure, je vous affirme. »« Me donneriez-vous votre parole ?» demanda Marousse. « Ma parole !» articula Guiret au prix d'un effort surhumain. « Ah !» fit simplement Marousse, les yeux fixés sur la portière qui séparait l'atelier d'une chambre à coucher. Guiret ne fut point sans remarquer ce regard. « Il faut vous convaincre, Marousse. Vous ne me croyez pas. À quoi bon le nier ?» « Pour moi, je veux que vous sortiez d'ici avec une certitude. Tel est aussi ton avis, Fred, n'est-ce pas ? Votre ami est là, dites-vous. La maison est vôtre, fouillez-la. »« Non, non, » murmura Marousse, « je vous crois, inutile. » À la vérité, le soupçon demeurait en lui. Guiret répéta, « Fouillez, Marousse, j'y tiens, je le désire, je vous en prie. » Et soulevant la portière, il montra le chemin. La chambre de Fred à côté de la mienne, notre cabinet de toilette, voici les clés des placards. Allez !» Conservant, malgré la fermeté du propos, l'ombre d'un espoir avec l'ombre d'un doute, Marousse pénétra dans la pièce et revint au bout d'un instant en disant « Je vous demande pardon, bien pardon. » Sa voix était encore plus sourde qu'à son arrivée. La conviction qui fouettait son courage s'était évanouie. Il n'avait même plus pour le soutenir sa jalousie. Guiret se taisait, raide, glacial,
les rôles maintenant étaient intervertis. Instinctivement, Marousse jeta un dernier regard autour de lui. Il se tenait appuyé contre la malle, presque assis sur elle. Fred mit la main sur ses yeux. « Allons, murmura Marousse, il me faut désespérer à présent. Je n'avais plus qu'une lueur d'espoir. C'est fini, fini. » Ni Guiret ni son complice ne trouvèrent la force de répondre un seul mot. Marousse sortit, lentement, comme à regret, comme s'il sentait qu'entre ses murs, quelque chose aurait pu le retenir encore. « Cette fois, murmura Guiret quand il fut parti, j'ai bien cru que nous y étions. Tonnerre que j'ai eu peur. Toi aussi, hein ?»«
Oui, évidemment, répondit Fred, mais sans cette épouvante qu'il n'avait pas quittée jusque-là. »
De lui et de Guiret, on eût dit qu'il était maintenant le plus calme. Ce sang-froid rassura l'aîné. Néanmoins, la secousse avait été si forte qu'il ne put s'empêcher d'ajouter. « Quand le père Legros sera venu, nous filerons dardard, quitte à attendre le train dans la gare pendant 10 heures, car il ne fera pas bon rester ici. Ne t'étonne pas si, devant les gens, je donne au cocher la gare de l'Est comme direction. Je la ferai changer ensuite. Il peut être d'une utilité capitale que nous gagnions de la sorte une heure ou deux. Donc, pas un geste, pas une question. C'est entendu. »
« C'est entendu, » promit Fred. Et il ajouta, songeant pour la première fois depuis le drame à sa misère physique.
« Mon Dieu, que je suis fatigué! J'ai envie de dormir, de dormir. »
« Non, » refusa Guiret. « Plus tard après, si tu veux. Pour le moment, tu te tiendras debout comme moi. Nous devons être prêts à tout. »
Petits enfants, prenez garde aux flots bleus qui font semblant de se plaire à vos jeux. Les flots berceurs font pleurer bien des yeux. Petits enfants, prenez garde aux